Et au menu de notre club des têtes au carré aujourd'hui, la naissance des maladies, une revue qui a du nez et une anamorphose végétale en plein Paris. Je vous présente mes invités dans un instant. Et puis à la une de la science aujourd'hui, la mission d'un satellite lancé aujourd'hui pour défier la relativité générale, Axel Villard.
Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Le but de la mission Microscope n'est pas vraiment simple. Mettre en défaut l'universalité de la chute libre et contredire au passage à la fois Einstein et Galilée. On vous explique dans un instant.
Le plomb et la plume, voilà pour les sujets de ce club avec vos messages et vos questions. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, les maladies et l'environnement, une revue olfactive et une anamorphose végétale dans le dossier. Et je salue mes invités, le professeur Dominique Bellepomme, Jeanne Doré, Olivier David et François Abellanet. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Professeur Bellepomme, il n'y a plus de doute aujourd'hui, nous sommes avant tout malades de notre environnement.
Oui, il n'y a plus de doute, si vous voulez. Mais c'est ce que dit ce livre qui s'adresse aux 20% de malades qui sont classés par l'assurance maladie atteints d'une affection à longue durée. Il s'adresse aussi aux un de nos concitoyens sur cinq est aujourd'hui malade à ce niveau-là. Mais il s'adresse également aux autres auditeurs de façon à éviter de tomber malade. Alors nous sommes face à une situation inédite. Je l'avais déjà dénoncé en 2004 dans ces maladies créées par l'homme. Il y a des fléaux de santé publique qui n'existait pas avant. Le cancer, bien sûr, en fait partie, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'autisme chez l'enfant. Oh. Un enfant sur 60 naît autiste aujourd'hui.
Et toutes ces pathologies sont liées directement à l'environnement.
Alors, c'est la preuve. Nous avons maintenant les preuves scientifiques, puisque depuis 2004, il y a eu, si vous voulez, une véritable révolution moléculaire et cellulaire avec cette naissance de l'épigénétique.
On en parle avec vous dans un instant. Vous publiez comment naissent les maladies aux éditions Les Liens qui Libèrent. Jeanne Doré, vous lancez Né, une revue olfactive, histoire de réactiver nos petites madeleines personnelles, c'est ça ?
Tout à fait. Donc Né a été lancé la semaine dernière. Donc c'est une revue de 144 pages qu'on peut lire pendant 6 mois, puisque ce sera un semestriel.
Oui.
On la trouve en librairie, dans certaines parfumeries. On peut aussi l'acheter en ligne.
Ouais, on en parlera évidemment avec pas mal d'articles scientifiques. Olivier David, d'ailleurs, vous êtes chimiste. L'herbe fraîchement coupée, vous l'évoquez. Pourquoi ça se sent comme ça, alors ?
Ah, parce que l'herbe, en fait, se défend. Elle essaye de repousser les agresseurs. Et puis après, on a également un autre article, aussi basé sur la chimie, sur une molécule magique qu'on a découvert dans le jasmin.
On en parle ensemble dans quelques minutes. François Abellanet, vous êtes anamorphiste. Avant de vous rencontrer, j'ignorais que ce métier existait évidemment. Qu'est-ce que vous créez exactement ?
Je crée de l'illusion, des anamorphoses et des anamorphoses spatiales avec des végétaux. Donc, pour l'exposition à l'Institut du Monde Arabe, l'exposition qui s'appelle Jardin d'Orient, source de modernité à l'origine et qui est devenue de l'Alhambra au Taj Mahal.
Avec la promesse de nous emmener peut-être toucher l'infini si c'est possible.
Exactement.
On va en parler avec vous d'ici quelques minutes et avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent. Et à la une de la science aujourd'hui, un satellite européen qui s'envole aujourd'hui pour remettre en cause les lois universelles de la gravitation.
Dans ma main gauche, j'ai une plume. Dans la droite, un marteau. Nous sommes ici aujourd'hui parce qu'un gentleman nommé Galilée, il y a longtemps, a fait une découverte très importante sur la manière dont les objets tombent dans un champ de gravité. Et on ne peut pas trouver de meilleur endroit pour confirmer sa découverte que sur la Lune. Je vais lâcher les deux exactement en même temps et j'espère qu'ils vont toucher le sol au même moment. Et voilà, qu'en pensez-vous ? Monsieur Galilée avait bien et bien raison.
Quelle est cette voix qu'on vient d'entendre, Philippe Hédarejos ?
C'est la voix d'un astronaute américain qui s'appelle David Scott, et c'était en juillet 1971, lors de la mission Apollo 15.
Ouais.
Il a refait l'expérience de Galilée.
Deux corps placés dans le vide tombent-ils vraiment à la même vitesse, quelle que soit leur masse ? Galilée l'avait prédit, Einstein l'a écrit dans ses théories de la relativité générale, mais est-ce que cette loi de la gravitation universelle est toujours vraie, même à des échelles très fines ? Eh bien, chercher la réponse à cette question très importante pour la physique moderne, c'est la seule et unique mission du satellite Microscope du CNES, qui sera lancée ce soir, depuis la base spatiale de Kourou en Guyane. Bonjour Thibaut Damour.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être avec nous en ligne. Vous êtes physicien et co-président du groupe de validation scientifique de la mission, justement, Microscope. Donc Philippe Hénarajos est également avec nous pour Ciel et Espace. Thibaut Damour, l'expérience qui va être menée donc dans ce petit satellite Microscope s'inscrit dans une lignée de découvertes très importante dans l'histoire de la physique.
Oui, parce que après Galilée, il y a eu Newton qui a fait les premières vérifications plus précises que celles de Galilée, et surtout Einstein qui s'est dit cette universalité de la chute libre, le fait que tous les corps tombent de la même façon dans un champ gravitationnel, ça doit vouloir dire quelque chose de profond à propos de la gravitation, et il a été le premier à construire toute une nouvelle théorie de la gravitation uniquement à partir de ce fait expérimental. C'est comme ça qu'il a construit la théorie de la relativité générale.
Et là, le but est de vérifier cette théorie à très très petite échelle. À quel point le monde de la physique serait bouleversé si la loi de la chute libre venait à être cassée par cette expérience ?
D'un certain point de vue, le bouleversement serait énorme. Parce que ça voudrait dire, non pas qu'Einstein a eu tout faux, mais que la théorie de la gravitation qu'il a présentée en 1915 doit être complétée. Qu'il y a d'autres champs que ceux qu'ont imaginé Einstein qui participent à la gravitation.
Il existe aujourd'hui des théories qui prédisent que cette loi de la gravitation soit fausse ?
Oui, c'est-à-dire même dès 3 ans après la découverte d'Einstein, en 1919, quelqu'un a dit « prenons la théorie d'Einstein, mais au lieu d'être dans un espace-temps à 4 dimensions, mettons-nous dans un espace-temps à 5 dimensions ». Et là, ça donne une gravitation plus riche parce qu'on utilise la géométrie de l'espace-temps à 5 dimensions. Et une conséquence, c'est une non-universalité de la chute des corps. Et après ça, on pourrait me dire 1919, c'est vieux, ça. Est-ce qu'il y a des théories plus récentes ? Oui, en fait, toute la théorie des cordes, qui est née au début des années 1970 et qui est encore en développement, suppose non seulement que l'espace-temps a plus de dimensions que ce que l'on voit, mais que, vu d'un autre point de vue, il y a d'autres champs. Et en tout cas, la conclusion, c'est que la gravitation est quelque chose de plus riche que ce qu'a imaginé Einstein. Et une possibilité, c'est qu'il y ait effectivement ces champs supplémentaires qui violent l'universalité de la chute libre.
Avec donc la théorie des cordes, hein, Thibaut Damour, c'est ça hein.
Oui, si on trouve une violation d'un type particulier, il faudra d'autres expériences après Microscope, si Microscope trouve un effet non nul pour être sûr que c'est une violation due au champ qu'ils appellent le dilaton en général dans la théorie des cordes. Mais personne n'est sûr que ce champ existe encore à longue portée. Il existe au niveau fondamental dans la théorie des cordes, il existe dans d'autres théories. Et s'il reste à longue portée, il peut créer des violations qu'on pourrait détecter dans le microscope. Ça montre en tout cas que l'enjeu est énorme.
Ouais, c'est extraordinaire d'ailleurs, Philippe Hénarajos, c'est aujourd'hui qu'on envoie des satellites pour à nouveau expérimenter ces théories.
Hein. Oui, parce que en fait, le problème, il est le niveau de précision de ce qu'on veut mesurer. Là, cette expérience de Galilée, elle est validée jusqu'à 13 chiffres après la virgule. Ouais. Vous voyez, donc c'est déjà pas mal comme niveau de précision. C'est énorme même. Mais Microscope va essayer de gagner 2 chiffres, va arriver à 15 chiffres après la virgule. Pour ça, on est obligé d'aller dans l'espace, parce que sur Terre, le champ de gravité est perturbé par les activités, par les séismes, même infimes ouais. qu'on ne ressent pas
à
forcément.
À ces échelles, en tout cas.
À ces
ouais.
échelles. Ouais. C'est vraiment énorme. Hein, cette histoire de après la virgule est vraiment ouais, quelque chose de...
Les décimales ont leur importance.
Voilà,
ça.
C'est comme quand on parlait des ondes gravitationnelles, on ouais. mesure des choses très très infimes. Donc il faut aller dans l'espace, s'affranchir.
Mais là, le satellite va emmener une plumée du plomb ou pas ?
Et non, ça aurait été beau.
Ah oui, franchement. Ouais.
Mais non, ça va être. Comment on cherche à faire des mesures très précises ? Ça sera 2 cylindres de métaux différents qui seront concentriques et qui seront dans une espèce de tube, si vous voulez, et qui vont se déplacer. On va mesurer leur déplacement. Alors ça prendra 2 ans quand même à mesurer
ouais.
tout ça.
Ah oui.
Et on sera à 700 km d'altitude. Et là, on est à peu près affranchi de toutes les perturbations, mais pas toutes. Ouais. Mais on devrait arriver à un bon degré de précision.
Thibaut Damour, on peut comparer ce qui va se chercher dans le ciel bientôt à ce qui a été trouvé récemment sur les ondes gravitationnelles, mais la théorie prédisait les ondes gravitationnelles. Là, si ça se trouve, on ne va rien trouver du tout.
C'est possible, parce qu'à un certain niveau fondamental, toutes les théories au-delà de la théorie d'Einstein tendent à prédire une violation du principe d'équivalence. Mais cette violation pourrait n'exister qu'à très petite distance. Si vous avez deux corps séparés de beaucoup moins qu'un micron, des distances microscopiques, là, sans doute, la gravitation est fortement modifiée. Savoir si la gravitation reste modifiée entre la Terre et le satellite, c'est-à-dire à très longue portée, c'est un pari. C'est un pari de Pascal, tout de même, parce que ça veut dire qu'il y a peut-être peu de chances qu'on trouve quelque chose, mais si on trouve quelque chose, c'est une révolution de la physique. Ça veut dire une nouvelle interaction, et c'est rare de trouver de nouvelles interactions. Ça veut dire apprendre quelque chose au-delà de la théorie de la relativité générale habituelle qui existe depuis 100 ans. Mmh. Donc c'est quelque chose de très important.
Bon, ben donc ce sera après le décollage ce soir, Philippe, hein, c'est ça depuis.
Oui, après le décollage, moi j'ai quand même une dernière question. Je me dis, si cette équivalence est mesurée et rompue, est-ce que c'est la porte ouverte à une théorie modifiée de la gravitation à des grandes échelles, comme par exemple Monde qui essaie de s'affranchir de l'existence de matière noire dans l'univers?
Thibaut Damour, très vite.
Non. Toutes les modifications à grande distance seront encore plus faibles que 10-15 ou des choses comme ça. Il y a des liens. Si le principe d'équivalence est violé d'une très petite quantité, on montre aussi que toutes les autres modifications de la gravitation habituelle, déjà testées, sont encore moins violées que ce que l'on sait. Donc il n'y aura pas aujourd'hui d'effet. Il y aurait des effets énormes au Big Bang. Hein, donc ça veut dire que la gravitation était très différente au moment de l'expansion de l'univers primordial.
Philippe Hénarejos, on retrouve un dossier justement sur cette expérience dans ciel espace.
Non, mais sur le site web.
Sur le site. C'est la même chose.
C'est la même chose.
C'est un dossier quand même.
Et c'est ciel espace aussi.
Et voilà. .fr. Merci beaucoup. Et puis avant de vous quitter, on tenait à vous féliciter, Thibaut Damour, parce que vous venez de recevoir deux distinctions pour l'ensemble de vos travaux et particulièrement pour l'élaboration des bases théoriques qui ont permis la découverte récente justement des ondes gravitationnelles. Vous venez d'être élu membre honoraire de l'Académie américaine des arts et des sciences et vous avez reçu également le prix. Alors là. Vous pourriez le prononcer pour moi, s'il vous plaît?
Oui, c'est un peu compliqué. C'est la Roderick Voltaire Lecture de l'European Astronomy Society.
Voilà, Société Européenne d'Astronomie. Félicitations et merci encore d'être venu nous éclairer un peu mieux aujourd'hui dans La Tête au Carré. Merci Axel, bon week-end.
2017, les premiers résultats de Microscope.
Allez, à lundi. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la voix de Freddie Mercury, un cas d'école pour les scientifiques. Des chercheurs autrichiens, tchèques et suédois se sont penchés très sérieusement sur l'organe vocal du chanteur du groupe Queen. Après analyse de centaines d'heures d'enregistrement, il démontre ses extraordinaires capacités vocales. Il était capable de parcourir 4 octaves, possédait un vibrato bien plus rapide que la moyenne des chanteurs et, particularité supplémentaire, il utilisait ce qu'on appelle le chant subharmonique qui permet de produire plusieurs notes en même temps. Une dent d'orque géante vieille de 5 millions d'années vient d'être trouvée sur une place australienne, une plage australienne. Elle apporte la première preuve de l'existence d'un ancêtre imposant dans les eaux du Pacifique. La dent qui mesure quand même plus de 30 cm de long, plus grosse que celle des tyrannosaures, a été analysée. Les résultats démontrent que contrairement à l'orque actuel qui se nourrit de gros poissons, cet ancêtre était capable de broyer des os, ce qui laisse penser qu'il se nourrissait majoritairement de mammifères marins plus petits que lui, comme les baleines ou les requins. Et puis les premiers stades du développement de l'embryon sont possibles dans l'espace, c'est ce que vient de démontrer une expérience chinoise qui avait mis en orbite plusieurs jours dans une capsule des ovules de souris fécondées. Revenus sur Terre le 18 avril dernier, les chercheurs notent une multiplication de plusieurs centaines de cellules embryonnaires au tout premier stade du développement. La plupart des cellules en culture sont parvenues en 72 heures à passer du stade de cellule double à celui de blastocyte, un temps comparable à celui qu'aurait pris ce développement sur Terre.
Aujourd'hui, Benjamin Biolay est sur France Inter.
Et tout au long de la journée, j'ai choisi le disque que j'aime dans les émissions de France Inter. Et ça, c'est un extrait de mon nouvel album. Palermo Hollywood, c'est la première chanson du disque, c'est le premier chapitre, c'est le générique de début. Et dans cet album, c'est après avoir écrit cette chanson-là, Palermo Hollywood, que je me suis dit, c'est de Buenos Aires dont je vais parler. Et j'ai trouvé que cette association de noms était typique de ce qu'est Buenos Aires aujourd'hui. Le jour se lève enfin sur Palermo Hollywood. Un train se marche dans la rue, me lâche un coup de coude. Alors je monte dans un taxi qui me dit de fumer merci. Libertador, même l'hiver j'adore. Le jour se lève enfin sur Palermo. Ma tête d'un grand shaker musical, je crois, et que je suis allé là-bas pour la secouer dans tous les sens et faire des cocktails que j'avais, que je n'avais jamais réalisé auparavant. Donc ça ressemble à ce que je ressens là-bas, c'est ma vie, ça ressemble à ma vision de la ville. C'est... Le jour se lève aux fins au Palermo, Hollywood, au Palermo, que sais-je, ma tête tourne. Je pourrais me coucher peut-être, mais j'ai de l'amour plein la tête. Je pourrais me coucher peut-être, mais j'ai peur de ne pas renaître. Le jour se lève aux fins au Palermo. J'avais besoin d'entendre la clameur de cette ville, d'entendre le son même, le son du bruit, comme dit Zidane, de cette ville, Buenos Aires, qui est vraiment... Et je considère que la ville a coécrit du disque avec moi, quelque part. C'est absolument impossible d'aller s'enfermer en Ardèche, en Bretagne, je sais pas où, même dans un endroit merveilleux et reposant, et d'écrire ce disque. Il faut s'y plonger, il faut se donner à cette ville, et là elle vous donne beaucoup.
La tête au carré, le club sur France Inter.
Et dans le club cet après-midi, La naissance des maladies, une revue qui a du nez et une anamorphose végétale en plein Paris, avec mes invités, le professeur Dominique Bellepomme, Jeanne Doré, vous êtes rédactrice en chef de la revue olfactive Nez, Olivier David, vous êtes professeur de chimie, et François Abbé-Lanné, vous êtes architecte, artiste et anamorphiste, avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Professeur Bellepomme, on commence avec vous. Vous êtes cancérologue, président de l'association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse, et donc vous publiez « Comment naissent les maladies ?» aux éditions Les Liens qui Libèrent, un ouvrage dans lequel vous montrez que l'augmentation exponentielle des maladies serait due, donc, pour une très grande part à notre environnement. Ça veut dire que l'écologie a un rôle à jouer aujourd'hui dans la médecine contemporaine ?
Oui, absolument. C'est pas nouveau, puisque Hippocrate, 5 siècles avant notre ère, a été le premier médecin écologique.
Il donnait déjà des conseils.
Dans son fameux traité des airs, des eaux et des lieux, il disait que les maladies, elles n'étaient pas liées à la colère des dieux, il fallait la chercher dans la nature, et en particulier dans l'air, les eaux et les lieux. Donc si vous voulez, ce qui est nouveau, on revient sur Terre là avec ce livre, puisque on parle de santé et de maladie. Il y a aujourd'hui un Français sur 5 qui est considéré comme atteint d'une affection de longue durée, donc classé comme tel par la sécurité sociale. Alors donc, c'est du jamais vu. Car nous sommes dans une situation sanitaire complètement inédite, avec l'apparition de ces fléaux de santé publique, par exemple le cancer, le diabète de type 2.
Mais ça, c'est vraiment nouveau dans l'histoire des maladies ?
Absolument.
De tout temps, on a vu émerger de nouvelles maladies, non ?
Oui, non. Alors, de tout temps, on a vu émerger de nouvelles maladies, mais pas avec la fréquence et l'importance actuelle. Le diabète de type 2 a été décrit par les Grecs, mais c'était quelques cas isolés. Là, nous avons 3 millions de Français qui sont atteints de diabète de type 2. Le cancer n'existait pratiquement pas jusqu'au 19e siècle, puisque un grand médecin français, Trousseau, ne décrit absolument pas le cancer dans son fameux traité. Donc nous sommes avec des maladies nouvelles. La maladie d'Alzheimer n'existait pas avant qu'Alzheimer la décrive au début du 19e siècle, du 20e siècle. Donc si vous voulez, là nous sommes dans une situation absolument inédite. Alors il faut trouver une explication.
Ouais, vous parlez de nouvelles pestes, hein, c'est le terme que vous employez.
Ce sont les nouvelles pestes, il faut trouver des explications. Alors en 2004, si vous voulez, j'ai dans mon livre « Ces maladies créées par l'homme », je me suis fixé une idée qui était celle de dire bon, « c'est nous qui créons nos maladies », tout simplement parce qu'il y avait ces données épidémiologiques qui demandaient une explication.
C'était très controversé quand même à l'époque, c'est-à-dire il y a 10 ans en arrière...
Ça a été
on doutait encore de cette association.
Le pavé dans la mare, surtout le fait que ça mettait en cause les activités humaines. Donc si vous voulez, ce nouveau livre maintenant, 10 ans de recherche, plus de 3000 articles scientifiques décortiqués actuellement, et nous avons maintenant les preuves moléculaires et cellulaires du fait que c'est l'environnement qui induit les maladies.
Voilà ce que vous disiez justement, professeur Bellepomme, en novembre 2003.
Je suis convaincu que le cancer et d'une maladie de l'environnement, principalement de l'environnement. Et non seulement le cancer, mais je dirais la plupart des autres maladies que nous fabriquons actuellement. Nos maladies, en effet, ne sont plus celles d'hier. Hier, elles étaient naturelles, essentiellement de nature infectieuse, microbienne, alors que celles d'aujourd'hui sont essentiellement artificielles, induites par la pollution physique, chimique, biologique de notre environnement. Car c'est nous, notre société aveugle, notre civilisation en proie à une crise sans précédent, qui les fabriquons.
Voilà, professeur Bellepomme. Et moins d'un an plus tard, après ces propos, vous lanciez l'appel de Paris, qui a donné naissance à la déclaration sur les dangers sanitaires de la pollution chimique.
Oui, signée par de très nombreux scientifiques internationaux, notre prix Nobel français de médecine, Jean Dausset, François Jacob et Luc Montagnier. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, de façon générale, le corps médical et les scientifiques, si vous voulez, il y a un consensus qui s'est établi, et donc aujourd'hui, s'il y a encore une confusion qui existe au niveau de la société civile, dans les médias notamment, c'est tout simplement parce que ce discours est difficile à accepter par les lobbies financiers et industriels, car il remet en cause les activités humaines.
Ouais. Et puis c'est très problématique parce qu'on est entouré, on baigne dans environnement pollué, et c'est très difficile aujourd'hui de s'en extraire. Hein.
Tout à fait. Il y a une nouvelle politique de santé qu'il convient de mettre en place, une politique courageuse dans lequel il y a des moyens de se protéger tout de même contre la pollution, mais c'est surtout, si vous voulez, réduire la pollution à sa source.
Ouais. Alors là, vous êtes très critique, justement, sur les politiques de santé, sur les institutions comme l'OMS, par exemple, qui, selon vous, ne font pas du tout leur boulot, quoi.
Ben, l'OMS, si vous voulez, elle fait en partie son boulot dans ce qu'elle pense être, si vous voulez, de ne pas remettre en cause les financements qu'elle obtient des industriels et des États en général. Elle ne va pas assez loin, bien sûr, mais elle corrigera ses erreurs, je pense, dans les années à venir, car elle ne pourra pas faire autrement que de donner des solutions pour ces fléaux de santé publique que nous avons à juguler.
Professeur Bellepomme, le cancer fait vraiment modèle, justement, pour figure de modèle, en tout cas pour illustrer un tel sujet.
Le cancer, si vous voulez, on sait depuis très longtemps qu'il y a des causes physiques, c'est les rayonnements, chimiques, c'est les molécules chimiques, notamment depuis des travaux anglais et japonais, qui datent déjà de plusieurs siècles pour les travaux anglais. Il y a également les microbes, en particulier les virus. Bon, tout ceci sont les causes réelles. Ce qui a obscurci le débat, c'est l'épidémiologie, avec notamment le tabagisme et l'alcoolisme, qui sont des facteurs de risque épidémiologiques qui ne sont pas les causes réelles du cancer. Ce sont des facteurs favorisants. Quand on parle tabac, le tabagisme est lié au cancer, mais ce sont les molécules qui se trouvent la conséquence de la combustion du tabac et qui se trouvent dans les goudrons et les fumées qui sont les véritables causes.
Sauf que, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire clairement quelle est la part environnementale dans la survenue d'une maladie, parce que c'est extrêmement complexe là aussi, on sait bien que c'est multifactoriel.
Tout à fait. Il y a donc maintenant l'épidémiologie seule n'est pas capable. Il faut lui annexer la biologie et surtout la toxicologie. Quand on combine ces trois approches, on finit par pouvoir déterminer la fraction attribuable à l'environnement. Ouais. Pour le cancer, c'est fait déjà.
Alors c'est quoi, par exemple ?
Eh bien, pour le cancer, oui, c'est 90% des cancers liés à l'environnement.
90% ?
90%. Maintenant, alors attendez, c'est ce que je disais en 2004. Ça a été, dans le livre, je donne notre méthode, si vous voulez, de détermination combinant ces trois types d'approches scientifiques. C'est confirmé dans une revue comme Nature, qui est vraiment une revue prestigieuse, entre 70 et 90%.
Alors on met quoi dans ces 70 et 90% de facteurs environnementaux? Les pesticides?
On met pour la chimie les pesticides essentiellement, on met les rayonnements, la radioactivité, c'est connu depuis Marie Curie, on met les champs électromagnétiques, possiblement cancérigènes, c'est l'OMS qui le dit, mais c'est probablement une cause très importante qu'on va voir émerger dans les années qui viennent. On met certains virus, bien sûr, et on met, si vous voulez, la multitude de produits chimiques, dont les pesticides, les additifs alimentaires, etc. etc. Alors, il y a un énorme travail politique à faire. Ce qu'on peut reprocher aujourd'hui, c'est le déni des pouvoirs publics vis-à-vis de ces problèmes de santé publique nouveaux. Mais je reste optimiste optimiste car le temps fera son œuvre. Et donc, je suis à peu près sûr qu'un jour ou l'autre, nous aurons une politique de santé à la hauteur du défi que nous avons à relever.
La résistance microbienne, Alzheimer, l'autisme, les maladies cardiovasculaires, tout ça, ce sont les thèmes que vous abordez et directement liés aussi à l'environnement. C'est pas une maladie de la vieillesse, Alzheimer ?
C'est une maladie, il y a deux aspects. Il y a la vieillesse naturelle, c'est ce qu'on dit officiellement. En fait, c'est la durée d'exposition à des facteurs de l'environnement. C'est-à-dire que plus on est vieux, plus on a le temps, si j'ose dire, malheureusement, en étant exposé à ces facteurs environnementaux, de faire une maladie d'Alzheimer. C'est ça le fond du problème.
La dépression, elle serait liée aussi à l'environnement ?
La dépression, vous avez deux aspects. Vous avez la dépression maladie, qui, là, on ne sait pas encore très bien ce qui se passe, mais de toute façon, ça peut être l'environnement psychologique qui induit une dépression, ça c'est clair et net, mais il y a
donc
aussi...
Donc c'est l'environnement au sens large, là.
On revient dans l'environnement, mais immatériel. Mais vous avez également maintenant des dépressions maladies associées à des maladies organiques qui sont possibles. Et un bon exemple de ceci, c'est ce que je vois en consultation aujourd'hui, un certain nombre de gens qui sont électro-hypersensibles parce qu'ils sont donc intolérants au champ électromagnétique, ça peut s'accompagner d'une dépression.
Mais alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, on tient plus compte des gènes, alors, dans la survenue des maladies ?
Alors, les gènes ont toujours leur rôle. C'est ce qu'on appelle le polymorphisme génétique. Il y a une susceptibilité génétique qui reste. Mais on sait maintenant qu'elle est insuffisante. Car, si vous voulez, il y a cette révolution épigénétique qui fait que l'environnement... Alors, c'est un petit peu difficile à expliquer.
C'est-à-dire, on sort de la cellule, là, pour le coup.
On sort de la cellule, c'est-à-dire l'environnement, on va rentrer dans l'organisme, dans la cellule, mais ces facteurs-là vont modifier les mécanismes cellulaires, et en particulier sans déstructurer les gènes, en les laissant tels quels, ça va modifier le fonctionnement des gènes, et c'est ça qui va créer de l'inflammation, on appelle l'inflammation de bas grade, et être à l'origine des maladies, le cancer, mais toutes les autres aussi. Ouais. C'est le point commun, c'est cette inflammation de bas grade qui est tributaire de cette révolution épigénétique qui fait que l'expression des gènes est modifiée.
Olivier David, là je m'adresse aux chimistes, évidemment. Comment vous recevez ces messages du professeur Belpomme, vous qui êtes par exemple le nez dans des produits chimiques, là, parce que vous avez ces petits échantillons de parfum, on en parlera avec vous tout à l'heure. Ça vous inquiète d'un point de vue sanitaire ou pas de travailler dans un tel environnement ?
On pourrait appliquer le principe de précaution de manière plus large en disant que moins on s'expose à une diversité de produits chimiques, mieux on se portera au final.
Ouais.
Là où il faut être très précis, c'est que les molécules sont les mêmes, qu'elles soient naturelles ou artificielles. C'est-à-dire que tout est molécule, en fait.
C'est pas pire de sentir un échantillon synthétique.
C'est pas tout à fait vrai.
Professeur Belpomme.
Non, c'est pas tout à fait
vrai. Attention, vous parlez à un chimiste.
les chimistes ne font pas peur. Non, ce ne sont pas tout à fait les mêmes molécules. Il y a des molécules mises sur le marché qui ont la même structure que les molécules naturelles. Mais globalement, le grand problème, c'est que nous avons les systèmes enzymatiques de détoxification pour ce qui est des molécules naturelles. Donc là, nous sommes adaptés depuis des millions d'années.
Je suis d'accord qu'il y a des molécules que les environnements auxquels ils n'étaient pas exposés avant. N'empêche que le benzène, qui est une molécule naturelle qu'on trouve, on arrive mal à la détoxifier. Mais je vais dans votre sens au final. Que la société dans son ensemble réussisse à se dire, on n'a pas d'a priori sur d'où viennent les molécules, mais est-ce qu'il y en a qu'on peut classer comme étant dangereuses, est-ce qu'il y en a dans lesquelles on se dit on peut raisonnablement accepter
le risque. C'est le cas, il y a des classements très...
Sauf qu'on démarre en fait, ce qui s'appelle REACH, on démarre depuis très peu de temps.
Si vous voulez, vous prenez l'exemple du benzène, le benzène est bien sûr, le noyau benzénique fait partie, si vous voulez, des molécules naturelles, de certaines molécules naturelles, mais il est clair que ce qui se pose à nous aujourd'hui, c'est que dans la nature, il n'existe pas de façon aussi concentrée que nous l'avons actuellement des vapeurs de benzène. C'est ça le problème.
Je suis d'accord, il y a eu la multiplication en fait, c'est la multiplication.
Il y a aussi ce qu'on appelle l'exposologie, c'est-à-dire le fait que nous sommes au contact de molécules dans notre civilisation artificielle que nous n'avons pas
Belpomme, la question c'est de savoir comment est-ce qu'on peut se protéger dans un monde totalement saturé de ces produits en tout genre. Vous donnez des pistes, 9 catégories de mesures concrètes qui sont dans votre livre. Choisir son lieu de vie, son habitation, se protéger sur son lieu de travail, l'alimentation évidemment qui est absolument essentielle.
Absolument. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas se désespérer. Il y a des moyens de se protéger de façon efficace, même si c'est difficile.
Et vous les abordez justement dans cet ouvrage « Comment naissent les maladies ?» C'est aux éditions Les Liens qui Libèrent. Et hommage aux Kids de Minneapolis, évidemment, aujourd'hui, à l'occasion de sa disparition. Prince avec Raspberry Beret. La disparition d'une légende, Prince, à l'instant. Hommage toute la journée sur France Inter.
La tête au carré. Le club.
Et une nouvelle venue dans le monde de la presse, c'est la revue Olfactive Née. Jeanne Doré, vous en êtes la rédactrice en chef. Il s'agit de la première revue papier francophone consacrée à l'odorat. J'ai bien choisi mon jour pour en parler aujourd'hui avec vous. Vous n'avez rien sur les débouchés d'ailleurs.
Nous on n'est pas médecins.
C'est pour ceux qui vraiment peuvent sentir et qui en profitent. Mais heureusement, vous faites appel à nos souvenirs aussi. Donc on peut sentir dans sa tête,
tout à fait,
même si on a le nez un peu pris. Voilà. Olivier David, vous êtes professeur de chimie donc à l'université de Versailles. Vous enseignez aux étudiants également dans une école dédié au parfum.
Exactement, oui.
Et vous signez deux articles dans ce premier numéro. Alors, c'était quoi, l'histoire d'un site internet au départ sur le parfum, justement ?
Alors oui, tout a commencé il y a 9 ans par un petit site internet qui s'est lancé, qui s'appelait auparfum.com, où j'ai commencé à écrire sur les parfums, à écrire des critiques de parfums.
Ah oui, ça existe, la critique
alors,
de parfum ?
Ça existe depuis une dizaine d'années sur
drôle,
internet.
Voilà, ah,
il y a différentes personnes à cette époque qui se sont dit, tiens, si on parlait des parfums autrement que dans les magazines et qu'on donnait notre avis.
Et vous avez la dent dure, alors, comme les critiques de
alors,
théâtre ?
Oui, tout à fait, comme le théâtre, les films, la musique. Quand on en connaît un petit nombre, on commence à avoir un avis sur la question.
Ouais. Qu'est-ce que vous dénoncez aujourd'hui dans les parfums ? Qu'est-ce qui vous agace ? Parce que personnellement, je trouve en tous les cas que les odeurs aujourd'hui sont de plus en plus fortes et de plus en plus sucrées. C'est-à-dire qu'il y a moins de délicatesse quand on arrive dans les transports en commun. On s'en prend plein le nez et je trouve que c'est trop, quoi. Alors, est-ce que c'est une des critiques que vous formulez ?
Alors oui, vous n'êtes pas le seul à penser ça, effectivement. Aujourd'hui, l'industrie du parfum, c'est une grosse industrie qui brasse beaucoup d'argent. Donc, quand une grande marque lance un parfum, elle veut qu'il se vende à des quantités énormes.
Donc, il faut que ça sente fort.
Voilà, il faut que ça sente fort, parce que quand on va le sentir dans un grand magasin type Sephora, Marionneau,
c'est épouvantable. Ces magasins sont épouvantables,
voilà.
Je trouve.
Donc, c'est bien pour ça qu'il existe d'autres choses aujourd'hui, qu'on n'est plus obligé d'aller.
Moi, je ne sais pas comment font les vendeuses d'ailleurs dans ces magasins, parce que alors là, pour le coup, pour la santé, il y a une vraie question sanitaire, moi, je trouve, qui se pose. Quand on travaille dans cet environnement chimique toute la journée, on en ressort déjà au bout de 10 minutes, on a la migraine. Mais le personnel de ces magasins-là, professeur Bellepomme, que
vous
en pensez ?
Vous avez une maladie qui est ce qu'on appelle la sensibilité multiple aux produits chimiques, qui est en pleine croissance actuellement, j'en parle un petit peu d'ailleurs dans mon livre, qui est liée essentiellement aux parfums artificiels. Et la question que je pose, où en est-on entre parfums naturels qui a tendance à disparaître sur le marché et parfums artificiels ?
Alors ça, c'est un grand débat, parce que la parfumerie s'est construite sur la chimie et sur l'arrivée, la synthèse de certaines molécules, donc qui existaient dans la nature, mais qui ont été resynthétisées pour pouvoir être utilisées à une autre échelle, donc comme la vanilline, des molécules qui étaient à l'état naturel, mais qu'on a su resynthétiser autrement. Et la parfumerie, c'est pas juste des mélanges d'huile essentielle ou de jus naturel, c'est tout un art. Enfin, nous, on considère que c'est un art. Et c'est comme en peinture, par exemple, voilà, c'est un assemblage de matières à la fois naturelles, donc les huiles essentielles ou les absolues, qui sont tirées des végétaux, voilà, et aussi de ces molécules, donc soit qui existent à l'état naturel, soit qui ont été effectivement inventées. Donc là, en parfumerie, on utilise des molécules qui n'existent pas dans la nature. Mais après, tout, alors là, moi, je suis pas chimiste, mais tout est question de dosage. Oui, et effectivement, les molécules qui sont mises sur le marché aujourd'hui en parfumerie, elles sont extrêmement surveillées. En fait, il y a énormément d'organismes qui font des tests, qui surveillent. Après, tout dépend de la dose.
Et vous voyez, par exemple, je connais bien la parfumerie à Grasse, par exemple. Eh bien, fut un temps, on cultivait des fleurs à Nice et ils importaient les fleurs de Nice pour faire des parfums. Maintenant, ça a complètement périclité et on est dans le chimique pur.
Olivier David. Alors,
ça reprend, en fait. Hein. A priori, ça reprend. L'activité à Grasse et dans les environs de Grasse reprend parce qu'effectivement, il y a en plus un côté romantique que les marques exploitent. Ouais. Et effectivement, hein, la chimie ne se substitue pas à la nature puisque la nature est un des meilleurs chimistes. Elle est capable de faire quasiment toutes les molécules. Nous, on dépense beaucoup d'énergie pour faire des choses que la nature fait très très vite et très simplement.
Alors, Jeanne Doré, il y a une page, moi, que j'aime beaucoup dans cette revue, c'est les 7 odeurs et les 7 souvenirs de l'école, de la classe. Alors, d'ailleurs, c'est amusant parce que j'imagine qu'aujourd'hui, ça sent plus du tout comme ça, la classe.
Alors, c'est vrai qu'il y a un petit côté nostalgique pour un peu les gens de notre génération.
À partir un peu de 40 ans, voilà.
Voilà, on va dire ça. Comme la Roneo, je pense que voilà, les étudiants aujourd'hui ont plus.
Alors, la Roneo, rappelez-nous ce que c'est, la Roneo. Vous vous souvenez, François Bellané, la Roneo?
Bien sûr, c'est les documents que les professeurs tournaient sur la petite machine à encre.
Avant les photocopieurs.
Exactement, avec de l'alcool et donc qui était violacé.
Ça sentait fort, ce truc. Mais on était complètement pour shooter, en fait.
Oui, c'est les prémices de l'alcoolisme, en fait. C'est la première fois où un enfant pouvait être exposé à l'alcool.
Et la Cléopâtre, cette colle qu'on sniffait comme des tarés.
Cette colle a un effet dingue sur tout le monde. Dès qu'on prononce le mot colle Cléopâtre, il y a un engouement terrible. Et même lorsqu'on parle juste de odeur des colles, le premier objet qui vient à l'esprit, c'est cette colle. Ouais. Donc elle existe toujours.
L'odeur, oui, bien sûr. L'odeur des protège-cahiers, la rentrée des classes, mais quel bonheur, ça sentait bon.
Alors
ça.
Là, dans le genre,
c'était
odeur
un peu
toxique,
douloureux parce que c'était la rentrée, mais ça sentait bon quand même.
Voilà, effectivement, j'ai découvert que le chlorure de vinyle, donc qui s'échappe du PVC, c'est pas terrible pour la santé. Hein.
Ouais. On avait l'odeur de noisette à colle, et puis l'odeur de l'encre aussi.
Voilà, donc l'odeur de l'encre aussi qui est liée à des conservateurs qui sont pas non plus super super bons.
Et les marqueurs,
avec des solvants
de l'ancien temps.
Ah oui.
Terrible les marqueurs, et c'est vrai, voilà.
Donc finalement on a quand même des odeurs et des très bons souvenirs qui sont associés à des substances.
Ah, le savon jaune aussi, le savon jaune dans les toilettes de l'école,
c'est au mur.
Voilà. Donc tout ça c'est dans cet article sur les odeurs de la classe, c'est extraordinaire.
On fait un peu une dissection des odeurs en essayant de décrypter, parce que finalement quand on a des souvenirs d'odeurs comme ça, elles viennent en bloc dans notre mémoire et on a du mal à les identifier, à les décrire. Elles sont souvent liées à un souvenir très fort. Donc là, on les dissèque un petit peu pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dedans et à quoi l'odeur est due.
Alors, on peut être amoureux aussi et avoir des souvenirs de peau, par exemple. Extrait de ce film avec Alain Chabat, Prête-moi ta main.
Sandrine m'avait quitté et j'avais pas réussi à la retenir. Son odeur était devenue une obsession, tout ce qui me restait d'elle. Mais mes cours de chimie me permirent de la retrouver. Je découvris ainsi qu'il fallait pas moins de 17 odeurs différentes pour reconstituer celle de ma bien-aimée. À ma grande surprise, il y avait même de la banane dans Sandrine.
C'est romantique ça, il y avait de la banane dans Sandrine, c'est chouette. C'est le souvenir qu'il garde de cette odeur de peau. Et l'odeur de l'herbe coupée, ça aussi à l'école par exemple, quand il passait la tondeuse, il y avait cette odeur au printemps qui arrivait.
Exactement,
et vous avez signé un article là-dessus justement, Olivier David.
Oui, alors ce qui est marrant, c'est un petit peu comme l'odeur de l'école, c'est qu'en fait c'est des odeurs qui a priori en elles-mêmes sont pas forcément très agréables, qu'on associe à un souvenir pour le coup très positif.
C'est vrai.
Et notamment parce que
c'est
l'herbe...
C'est agréable l'odeur de l'herbe coupée?
Vous, pour un humain, oui, pour une chenille, pas du tout.
Ah oui,
voilà,
oui,
là,
oui.
Ça dépend. C'est un peu ce qu'on a voulu mettre en
avant.
Moi, je me
place de mon point de vue du
monde. Voilà. C'est qu'a priori, c'est un gaz lacrymogène.
En fait, l'herbe le fait
comme un gaz lacrymogène pour essayer d'éloigner les prédateurs qui veulent la grignoter sans arrêt.
Oui.
Alors que nous, évidemment, nous, c'est le seul contact qui nous reste avec la nature en tant qu'urbain. Et on associe cette odeur elle est très pétillante, très fusante. Hein. C'est quand même assez particulier. On l'associe à quelque chose de vraiment très, très heureux. C'est du bonheur.
Pour les vaches aussi, c'est formidable, cette odeur d'herbe fraîchement coupée. Il y a un signal aussi qui leur est envoyé. Hein.
Parce que bah, d'un seul coup, elles sont capables de dire j'ai une belle herbe bien fraîche, bien nourrie, avec beaucoup d'eau, et qui, ouais, dans ces cas-là, l'odeur est très prégnante.
Ouais, donc il y a tout ce rapport très sentimental, hein, au fond, oui, avec ces odeurs. C'est ce que vous montrez aussi.
Et c'est comme ça qu'un chimiste finit par écrire un article plus sentimental. Oui.
Et l'environnement joue là-dessus, non ? Quand
François Bénel.
Oui. Ah, alors, oui, alors, l'odeur de quand il pleut a même un nom, en fait, il s'appelle le pétrichor.
Ah, oui, bah dis donc.
Et donc, quand les gouttelettes d'eau tombent sur le sol humide, donc là, c'est plutôt la terre.
Hein. Mais
c'est
pas associé à l'herbe. Quand
oui,
on
l'associe
l'herbe
à l'herbe, mais en fait, là, c'est la terre.
Ça crée un parfum.
Ça crée un parfum. D'accord. Là, il y a vraiment, d'un seul coup, une image, hein, parce que j'imagine que tous nos auditeurs ont d'un seul coup une image qui leur vient de cette odeur qui monte. Alors, en général, il fait chaud. Et d'un seul coup, le rafraîchissement avec l'odeur de l'herbe, de la poussière et donc du fameux pétrichor.
Ouais.
C'est une molécule qui s'appelle la géosmine qui donne cette odeur-là.
Et alors, cette molécule s'appelle l'édione, à laquelle vous consacrez carrément deux pages.
Oui, alors...
Pourquoi ?
Parce que là, c'était pour faire pendant un petit peu avec une odeur que tout le monde peut connaître. Et là, c'est une odeur qu'on ne connaît pas. Alors qu'en fait, toute personne qui porte un parfum, en fait,
porte
de l'édione.
Ouais.
Et ce qui est intéressant, parce que là, ça rejoint un petit peu ça, c'est une molécule que l'homme a créée, mais qui est inspirée d'une molécule qu'on a trouvée dans le jasmin. Il y en a une infime touche dans le jasmin, 0,8%, il me semble, hein, de mémoire, et ça modifie complètement l'odeur du jasmin. Si on n'en met pas, on n'arrive pas à un parfumeur n'arrive pas à reconstituer un jasmin.
Ouais.
Et à partir du moment où on a réussi à l'isoler, à la produire, on a pu d'un seul coup transformer, là c'est un peu comme la vanilline tout à l'heure avec les débuts de la parfumerie, l'édione a complètement modifié la parfumerie après sa création.
Ouais, et la neurologie a montré que l'édione justement active les récepteurs de phéromones pourtant atrophiés chez l'être humain et induit chez nous une stimulation des zones cérébrales associées à la mémoire et au comportement. C'est-à-dire que avec le parfum on nous manipule.
Oui, avec alors c'est le système limbique, donc c'est vraiment au cœur du cerveau. Donc Jeanne a également un article sur le fonctionnement de l'odorat au sens cérébral. Le système limbique et l'amygdale sont complètement enflammés, on va dire, par les diones. Et ce que les chercheurs ont prouvé, c'est que les femmes le sont plus que les hommes.
Et pourtant, c'était dans un parfum pour hommes, je crois. C'était Eau Sauvage.
Alors, ils ont testé les deux. Et la première fois, oui, c'est un parfum pour...
Il y en a eu beaucoup, hein, 2,5%.
Et ensuite, ça n'a fait que monter, puisque la matière première pouvait être utilisée en grosse quantité, oui.
Voilà, donc, pour cette revue olfactive, Jeanne Doré, avec d'autres articles sur bien d'autres sujets. L'itinéraire d'une odeur, par exemple, là aussi, du nez jusqu'au cerveau. Et puis, des conseils, des rendez-vous. Bah, tiens, d'ailleurs, vous avez le rendez-vous de votre voisin de gauche.
Tout à
là.
Fait, vous êtes dans l'agenda.
Donc, on va parler dans un instant avec cette anamorphose à voir au Jardin d'Orient. De l'Institut du Monde Arabe, c'est cette exposition au Jardin d'Orient. On en parle dans un instant. Et donc cette revue dans les kiosques et chez les parfumeurs aussi.
Alors, pas en kiosque, en librairie.
En librairie.
Voilà, en librairie et dans pas mal de parfumeries indépendantes, voilà, qui nous vendent également.
Et vous avez réimprimé parce que ça marche très bien.
Tout à fait.
Mais c'est tant mieux parce que c'est le premier numéro.
Aujourd'hui, Benjamin Biolay est sur France Inter.
Et tout au long de la journée, j'ai choisi les disques que j'aime dans les émissions de France Inter. Human Sadness de Julian Casablancas est sans doute un des plus beaux, plus grands, plus définitifs morceaux 2.0. Julian Casablancas, tout le monde le connaît, ou pratiquement, c'est le chanteur des Strokes. Il a écrit cette chanson qui s'appelle Human Sadness, qui commence par un sample du Requiem de Mozart. Et il a fait une petite parenthèse des Strokes, il a monté ce groupe qui s'appelle The Voids, avec des amis à lui qui sont des musiciens absolument totaux qui font de la world, de la fusion, du métal, du folk. Et qui part après d'une immense litanie, comme un robot qui aurait avalé Jeff Buckley, je sais pas comment dire. La chanson qui m'a le plus bouleversé ces dernières années, et évidemment nous ne pourrons pas la passer en entier parce qu'elle dure plus de 10 minutes, mais il faut vous la procurer, c'est une obligation.
Une découverte de Benjamin Biolay pour France Inter. Il s'appelle Julian Casamonclas and the Voids et c'est Human Sadness à l'instant. La suite et la fin de notre club des têtes au carré avec vous, François Abellané. Vous êtes architecte, artiste, anamorphiste, mais également décorateur de théâtre, de cinéma. Vous êtes scénographe, sculpteur d'espace et vous ne m'en voudrez pas si je dis que vous êtes manipulateur aussi.
Mais oui, hein, comme ma voisine, elle manipule des parfums et moi je manipule l'espace. Et je pense qu'il y a un lien entre tout ça.
France Inter est partenaire de l'exposition Jardin d'Orient. C'est à l'Institut du Monde Arabe jusqu'au 25 septembre. Et on va pouvoir découvrir cette anamorphose végétale que vous avez créée. Qu'est-ce qu'une anamorphose? Alors, expliquez-nous un petit peu, parce qu'on va tout de suite comprendre. Il y a une photo de votre anamorphose sur le site de la Tête au Carré, pour les auditeurs qui souhaitent voir de quoi on parle en même temps.
Oui. Une anamorphose, c'est une transformation d'une image de façon simple, mais image veut pas dire deux dimensions, mais veut dire dimension spatiale. Donc, on parlait des sens tout à l'heure, et bien là, je dilate l'espace, et donc j'amène sur un parcours de 150 mètres à reconstruire une image.
Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est un trompe-l'œil, par exemple?
Un trompe-esprit.
Un trompe-esprit, ben oui, parce que vous jouez avec notre cerveau.
Et oui, parce qu'on ne voit pas avec ses yeux. Les yeux captent des signaux qu'on envoie dans une partie de notre cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Ouais. On a codifié ces images, et après ça, on la reconstitue, c'est-à-dire quand on regarde, on met le moteur de recherche, on cherche les références dans notre cerveau et on reconstitue et on dit « Ah, j'ai vu quelque chose ». Or, quand on se promène sur cette rampe qui va nous amener à cette image, on ne comprend rien et c'est ce que je cherche.
C'est ça.
Et je cherche à vous faire reconstruire cette image.
Ouais. Alors, cette rampe dont vous parlez, elle encadre en fait le jardin oriental de l'Institut du Monde Arabe. Donc, ça veut dire que vous le faites passer sur une passerelle.
Exactement.
Donc, on fait tout un tour et puis il faut arriver à la fin du parcours pour comprendre ce qui se passe autour de nous.
Voilà, on est interpellé, on voit les changements de couleur. Là,
avec des plantes, puisque tout est végétal.
Voilà, donc là, il y a 6600 vivaces, il y a 8 harmonies de couleurs, et donc avec des fractales, des éléments un peu déstructurés, on ne comprend pas, de tailles différentes, qui vont de 40 mètres carrés à 1 mètre carré, et qui sont un peu étonnantes. Et j'interpelle les gens, les visiteurs, à les regarder. Et voilà, et à un moment, il y a un cadre qui est là, et il faut passer sa tête à travers ce cadre, un petit peu comme le sang d'un poète de Cocteau. On va passer de l'autre côté du miroir, et on va chercher cette image.
Et on va comprendre comment on a été manipulé justement avec toutes ces structures que vous avez installées. Pourquoi le végétal, en l'occurrence, c'est la première fois que vous travaillez avec les plantes ou pas?
Non, j'ai fait devant l'Hôtel de Ville une anamorphose il y a quelques années sur le thème de l'arbre et j'ai recréé une sphère végétale de 180 mètres de long. Je dis bien long, pas de large, pour donner un effet étonnant à l'œil.
Ouais. Et vous êtes d'ailleurs, je crois, le recordman mondial. C'est ça, de la plus grande anamorphose qui vous a été décernée par le Guinness Book des Records en 2013.
Exactement.
Pour une réalisation à Lyon.
C'est ça, exactement. J'ai couvert la place Bellecour d'une toile imprimée où les gens marchaient dessus, où on avait l'illusion d'un paysage fantastique.
Ouais. Donc là, on va tourner autour de votre anamorphose qui est représentée comme une robe de lancement un petit peu. Hein. C'est ça.
C'est ça.
Alors, c'est quelque chose qui nous emmène vers le ciel.
Oui, alors d'abord la structure, parce que l'anamorphose c'est un tout, c'est pas une image, en fait c'est une construction. J'amène les gens à aller déstructurer l'espace, donc il n'y a aucune verticale, aucune horizontale, rien n'est plan, on cherche, on comprend pas, et c'est ce que je cherche.
Ouais.
Et quand on prend cette rampe de lancement, comme vous dites tout à l'heure, eh bien on tourne autour de cet élément un peu bizarre, et on croise les regards, on croise les espaces, on met en valeur la façade de l'Institut du Monde Arabe, parce que c'est quand même la culture arabe, et après ça, on va voir une icône de l'image du monde arabe.
Ouais. Donc vraiment, j'invite les auditeurs à aller sur le site de la Tête au Carré en ce moment même pour voir l'anamorphose justement que vous avez réalisée, qui va vivre 6 mois.
Peut-être Peut-être plus.
Peut-être plus, on ne sait pas encore.
On ne sait pas encore.
Donc là, c'est parti. Vous êtes nombreux à faire ce type de travail dans le monde ?
Non, je suis tout seul. Des gens qui font de l'anamorphose, parce qu'on est tous des anamorphistes. Hein. Ouais. Une ombre est une anamorphose. Donc, quand on se déplace, on fait des anamorphoses tout le temps. Mais qui travaillent dans l'espace, comme ça, qui construisent l'espace, je suis le seul.
Il y a Varini, quand même, aussi.
Oui, Varini, lui, mais il projette dans l'espace construit.
Ouais.
Georges Roux, c'est sublime ce qu'il fait avec ses photos. Il joue dans des sites et il travaille sur la photo et tout. C'est des installations superbes. Moi, j'amène ce côté... spectateur acteur et je viens du cinéma et j'amène donc je mets de la réalité dans la fiction ou la fiction dans la réalité, je ne sais pas, mais en tout cas amener les gens à cueillir une image.
C'est ça, et à nous perturber aussi.
Exactement.
Parce que ça c'est volontaire, on est tout à fait secoué. Ça a commencé quand d'ailleurs ces premières réalisations? Ça fait longtemps qu'on pratique l'anamorphose?
L'homme préhistorique en faisait quand...
Ah bon
oui. Dans les grottes de Lascaux, quand il ne connaissait pas la verticale, il connaissait l'horizontale avec l'eau, sur les parois rocheuses les animaux ont profité de l'excroissance des roches pour pouvoir exprimer quelque chose avec sa torche, on lui donnait un effet dynamique, c'était des anamorphoses. Après, bien sûr, on a en tête le tableau d'Holbein avec donc les ambassadeurs, donc c'est Vanité, et on a cette tête de mort qui traverse le bas du tableau, qu'on va chercher. Et puis à Rome, à la Trinité des Monts, c'est Minime, c'est moines qui ont mis toute la théorie, donc on a appelé ça l'art pervers de la perspective.
Ouais. Alors vous êtes architecte, j'imagine que justement pour la perspective, c'est absolument essentiel dans votre travail, parce qu'il y a de l'architecture, donc il y a le sens des perspectives, et il y a énormément de mathématiques dans l'élaboration même. Je crois que vous avez tout réalisé à l'échelle 1 au départ, c'est
ouais,
ça?
Non, c'est parce que c'était très compliqué à construire. Quand vous irez sur place, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de verticale, pas d'horizontale. Ouais. Déjà, les gens qui vont monter, les gens qui vont construire, donc pour arriver à ce que toutes les informations soient là, eh bien j'ai fait imprimer le plan à échelle 1, donc il y a une toile de 600 mètres carrés qui a été posée au sol, et on avait toutes les informations, les altimétries, les points, les points d'accroche, et on a joué avec une grue de 200 tonnes pour soulever les éléments, pour pouvoir arriver à mettre les choses exactement au point par point sur place.
Mais c'est un travail de fou. Alors moi j'ai eu la chance de le visiter avec vous il y a une semaine, hein, vous étiez en pleine installation. C'est du millimétrage, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper d'un millimètre, sinon on n'a pas cet effet de perspective.
Exactement.
Mais comment vous, dans votre tête, vous arrivez à concevoir de telles formes, à imaginer justement ce résultat final qui va faire que ça fonctionne?
Bah, je sais pas, c'est à force de faire du...
Vous avez un logiciel particulier?
Moi, j'ai un petit vélo qui va un peu vite, c'est tout.
Ah ouais.
J'adore tout ce qui est géométrie, mécanique, et donc voilà, au départ, je sais. Donc au début, j'ai balbutié. Il y a 6 ans, j'ai commencé à toucher ça. Alors, c'est vrai que dans le cinéma ou dans le théâtre, on utilise l'anamorphose.
Alors, dans quel type de situation, par exemple?
Non, je vais vous donner un exemple. Par exemple, on connaît peut-être le film de Polanski, Le Locataire. Et en fait, quand Polanski s'habille avec la robe de chambre de la locataire, et qui va au fond de la pièce, il change d'échelle. Et c'est dans un seul moment. La pièce est une anamorphose inversée. C'est-à-dire, le point de fuite n'est pas devant, mais derrière. Là, on a un exemple réel, d'un changement d'échelle à l'œil nu, d'un personnage en réel, direct.
Et on peut faire n'importe quoi, c'est-à-dire que si on veut tout d'un coup avoir un horizon avec une mer et des vaguelettes, par exemple, on peut le faire.
Tout alors à fait, j'ai fait
on
ça.
On n'utilise pas du tout l'élément liquide. Hein,
non, des petits fils tendus avec un petit réverbération métallique sur 30 cm, ou pas plus, mais 2 mètres, avec un effet de lumière à travers une fenêtre, je vous fais le lac Clément sans problème.
C'est ça, voilà. Donc là, c'est pareil, on se joue de notre cerveau en permanence. Hein.
Oui, alors c'est focaliser le regard, et c'est ce que je cherche dans cette exposition, c'est en fait aller à l'essentiel. Et le thème de cette problématique de cette exposition, c'est de dire, voilà, la culture arabe a des origines, on va vers la modernité et allons vers l'essentiel et ne restons pas sur le passé.
Oui. Jeanne Doré, est-ce que vous, avec le parfum, on pourrait dire que vous provoquez justement des anamorphoses comme ça olfactives?
Oui, tout à fait. C'est intéressant, cette idée de se focaliser sur un de nos sens. Parce que quand on donne de l'attention à l'odorat ou à la vue, finalement, on se concentre sur ce qu'on ressent, sur nos émotions. Et donc, on se rapproche de nous-mêmes et ça fait du bien.
Ouais. Et là, on nous emmène vers l'horizon et vers l'infini surtout. Hein.
Oui, alors quand on est dessous l'anamorphose, il y a ce beige mat. C'est un motif qui symbolise l'eau qui est irisée par le vent. et on est dessous, donc dans la citerne, et on a ces plateaux qui vont vers l'infini, et puis quand on passe au-dessus, là on décolle et on va avec les tapis volants.
Ouais, on va pouvoir donc également parcourir l'ensemble de cet espace.
Exactement.
Prendre le temps de s'asseoir, de prendre un thé, par exemple.
De toucher les plantes. Il y a des santolines, il y a toute cette plante odorifère, il y a les orangers, il y a tout ça qui est autour de cette image. Donc on construit l'image, mais avec tous ses sens. Et j'espère que le ressenti soit fort et que ça apporte de l'émotion.
Ouais. Voilà. Eh ben, je peux le confirmer en tous les cas, parce que c'est un parcours très étonnant que vous nous amenez à réaliser. Et puis ce point de vue, donc cet ultime point de vue, hein, ce petit point dans l'horizon.
Voilà, et cette image qui quand même est assez symbolique, qui a été choisie, c'est que après, au lieu dans les iconographies, j'ai choisi donc le paradis terrestre, et il y a un bassin au centre qui est l'éternité, donc je demande d'aller toucher l'éternité.
Eh ben, c'est quand même pas mal, c'est pas tous les jours qu'on nous le propose, justement.
Voilà. Du regard.
Merci beaucoup à vous, François Abellané, jusqu'au 25 septembre, donc dans le cadre de l'exposition Jardin d'Orient avec France Inter, pour découvrir cette anamorphose végétale que vous avez créée. Professeur Bellepomme, comment naissent les maladies? C'est aux éditions Les Liens qui Libèrent, et puis donc la revue Née, revue olfactive, donc à découvrir en ce moment en librairie et chez les parfumeurs. Voilà, c'est le premier numéro qui vient de sortir. Merci beaucoup à tous, bon week-end.